9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et le premier invité de Culture Média va vous porter chance.
Mais oui, nous sommes vendredi 13, et qui dit vendredi 13 dit super cagnotte. Le super loto avec 13 millions d'euros à gagner, surtout l'euro million, 162 millions en jeu. Le tirage du loto, c'est ce soir à 20h45 sur TF1, l'euro million à 20h50. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, de votre côté, j'ai invité le présentateur du loto ce soir, il va vous faire gagner. Bonjour Christophe Beaugrand.
Ah, j'espère que je vais faire gagner les gens.
Dites bonjour, l'interview n'a pas commencé
bonjour,
encore.
Pardon, bonjour, pardon. Oui, effectivement. Non, mais je suis très positif. J'essaye de penser à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont peut-être joué et qui espèrent remporter 13 millions.
Et qui peuvent encore jouer toute la journée.
Exactement, jusqu'à 20h15.
Oui, c'est le principe du vendredi 13. Alors, vous avez plein d'activités sur les chaînes du groupe TF1, notamment sur TFX, sur LCI, on va en parler. Mais d'abord, ce qu'on attend tous, les millions qui tombent, est-ce que vous-même vous jouez ?
Oui, j'ai le droit de jouer, contrairement aux autres émissions de TF1, quand on est animateur ou quand on est employé de la chaîne TF1, on n'a pas le droit de participer aux jeux, type les jeux de Jean-Luc Reichmann par exemple, ou qui veut gagner des millions, ça on ne peut pas. En revanche, c'est la loterie nationale, là c'est différent pour avec la Française des Jeux, nous sommes au même pied d'égalité avec tous les Français, donc, et tout, même les étrangers d'ailleurs, tout le monde peut jouer, et donc effectivement je joue de temps en temps, mais je n'ai jamais gagné, hélas, j'aurais adoré me faire gagner. Hein.
Ouais. Ah oui, et là, vous allez jouer aujourd'hui ?
Ouais, je vais jouer. Alors en plus, moi, j'ai l'appli. Il y a une appli. Alors c'est terrible parce que ça piège beaucoup parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on dépense. Mais il y a une appli, on remet des sous dessus et du coup, on peut jouer. C'est très très facile. Donc, ouais, je joue avec l'appli assez régulièrement.
Je parlais de télévision. C'est amusant à faire le tirage du loto. C'est stressant. Vous êtes en vrai direct ?
Alors,
ou est-ce qu'il y a un time-lapse ?
Alors, il y a effectivement un petit décalage. C'est-à-dire qu'on tourne le tirage vers 20h15, 20h20, quelque chose comme ça, avant la diffusion. Et quand on voit le programme, on a tout de suite la réponse en disant j'appelle la carte, vous allez voir, est-ce qu'on a un gagnant ce soir. En fait, là, il y a un laps de temps entre le moment où on fait le tirage et le moment où on a les résultats. Donc, on le voit dans la foulée, mais en réalité, il faut attendre à peu près 10 minutes entre le moment où j'ai fini le tirage et le moment où on sait s'il y a un gagnant et où il est. Donc, voilà, quand on voit l'émission, on a l'impression que c'est d'un seul tenant, ça dure 1 minute 30, mais en réalité, on a attendu un petit peu.
Moi, j'imaginais que c'était pas en direct au cas où il y a un incident, où la machine se bloque, se grippe et que les gens disent oh, c'est truqué ou quelque chose comme ça.
De toute façon, on est obligé de diffuser le tirage tel qu'il a eu lieu, sauf s'il y a ce qu'on appelle un incident technique. J'ai jamais eu un incident technique, mais on fait des répétitions régulièrement pour ce genre de choses.
Comme dans les avions, on vous fait faire quoi ?
On vous fait
sauter par les toboggans ?
Il y a un texte particulier avec un wording particulier parce que évidemment ça rigole pas. On a un huissier de justice et on le dit, il y a des millions à gagner. En l'occurrence, plus de 160 millions pour l'euro million ce soir, plus 13 millions pour le super loto. Donc oui, il y a des règles très précises parce que c'est un jeu d'argent, ça ne rigole pas et les gens jouent effectivement et misent de l'argent.
J'ai ironisé évidemment avec ça, mais blague à part, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir dans la rue pour vous demander de faire sortir le 4 ou le 2
mais
ou le 8
tout le temps.
C'est pas vrai.
Mais tout, je vous jure, je vais faire trois courses, tout le temps me disent ah, il faut me faire sortir les numéros du loto. Hein.
Je dis, mais oui, en blaguant. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous le demandent sérieusement
non,
est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'il y a des présentateurs à qui c'est déjà arrivé.
Ah non, moi sérieusement, ça ne m'est pas arrivé. Mais les gens viennent rarement me parler sérieusement. Je ne sais pas, ça doit être à cause de mon sourire peut-être.
Vous êtes une équipe qui présente le loto et l'euro million.
On est une team, on est 5 ou 6 à nous relayer pour présenter l'euro million.
Parce que c'est trop de boulot ou c'est une manière pour TF1 de mettre en avant une vitrine, Jean-Pierre Foucault, Karine Ferry, Marion Jolès, Elsa Fayère et depuis janvier l'ex-Miss France, l'ex-Miss Univers Iris Mittenard.
Exactement, l'idée en fait quand...
C'est pour vous booster, vous faire connaître.
Quand TF1 a signé le contrat avec la Française des Jeux, le programme, le loto et l'euro million ont quitté France Télévisions pour aller à TF1, l'idée c'était de mettre à disposition de cette marque-là les animateurs importants de la chaîne. Donc c'était le deal entre guillemets. Il y avait Sandrine Quétier à l'époque, il y avait Estelle Denis aussi qui était dans les premiers, en l'occurrence elles ont quitté la chaîne depuis, mais l'idée c'est effectivement de mettre les animateurs phares de la chaîne et pas des animateurs parfois un peu moins connus. Par exemple Cyril Ferraud était moins connu, il faisait le loto à l'époque, depuis il est devenu très célèbre, mais à France Télévisions à l'époque c'était des animateurs moins célèbres.
Ça, mais vous n'êtes pas l'animateur le plus connu de TF1.
Ah, c'est pas ce que je vous dis. Non, mais enfin, Jean-Pierre Foucault c'est pas le moins connu non plus.
Oui, mais il y a Nico, il y a aussi des grosses figures qui ne font pas le tirage du loto.
Ah bah, ça dépend des disponibilités des gens, de leur volonté de le faire ou pas. Donc voilà, ça c'est... Mais en tout cas, le deal, c'était ça, de mettre des figures de l'antenne de TF1 pour présenter cette émission.
Autre actualité, Christophe Beaugrand, vous présentez du lundi au vendredi la bataille des couples 2, c'est la deuxième saison, c'est sur TFX. Deuxième saison parce que la première saison a été vue en moyenne par 330 000, ce qui est un très bon score à cet horaire, c'est 18h50, c'est bien ça ?
Oui, c'est l'horaire. Ça, 18h50.
D'où la saison 2. Comme son nom l'indique, c'est une compétition entre couples. On va entendre la bande-annonce de la bataille des couples. Alors, comme on est à la radio, je vais vous décrire l'ambiance, les images. Visuellement, on est entre Koh-Lanta et les Ch'tis à Miami. ils et elles passent leur temps en maillot de bain, mais en même temps, ils rampent sur le sable, oui. mais aussi ils se roulent des pelles.
Ils transpirent.
Bande annonce.
C'est ça.
Nouvelles épreuves pour les couples.
Que la bataille commence.
Qui tourne, c'est une catastrophe.
L'amour et la complicité en sortiront-ils vainqueurs?
Je vous l'annonce et je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, vous êtes au bord de la rupture tous les deux.
Pour empocher les 60 000 euros,
et là on sent que ça pue,
le meilleur couple devra aussi faire face au coup de théâtre.
Oh mon Dieu,
ça va être un calme.
Inédit, la bataille des couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.
Ça fait peur. Hein.
Ça fait peur. C'est quoi le principe du jeu?
Alors le jeu, nous avons 10 couples, donc 20 candidats, 10 couples qui s'affrontent au cours d'épreuves qui sont des épreuves souvent physiques ou des épreuves d'équilibre, parfois des questions de culture générale aussi, des énigmes, ce genre de choses. Et qui, voilà, il y a des éliminations. L'objectif, c'est d'être élu le meilleur couple de l'année et donc de remporter jusqu'à 60 000 euros.
Il n'y a pas d'épreuve type l'île de la tentation, qui va voir la femme de l'autre. C'est pas du tout
notre
ça.
Objectif n'est pas du tout de briser des couples. Au contraire, c'est une émission beaucoup plus feel good. Ouais. C'est plutôt de tester leur complicité, le dialogue entre eux, etc.
Bah là, et dans l'extrait, dans la bande annonce, on entend une dame qui a l'air experte et qui dit un couple, votre couple va pas durer.
Ouais. Ah ben alors c'est parce que il peut y avoir, et ce qui est arrivé avec un de nos couples qui était en crise. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils se retrouvent dans des situations avec des épreuves où parfois, imaginez si jamais vous participiez à une émission comme ça avec votre femme. Je sais pas si vous êtes marié.
Je suis pas marié.
Mais voilà, votre compagne ou votre compagnon, ouais. On peut s'engueuler assez facilement. Donc parfois, ça peut créer des dissensions dans le couple. Et en l'occurrence, pour le couple dont parlait la coach, nous avons une coach amoureuse qui s'appelle Lucie. C'était un peu compliqué. Ils ont été dans une situation un peu complexe.
Et je ne me vois pas du tout partir dans ce genre d'émission avec ma compagne.
Ah, vous ne vous aimez pas assez.
Non, mais c'est pas ça. Les conflits, évitons les conflits. Toujours éviter les conflits. Alors là, pas de conflit, car les vainqueurs de l'an passé s'appelaient Gesta et Benoît.
Yesta,
pardonnez-moi, ils ont mis leur couple à l'épreuve dans la première saison, c'était en République Dominicaine, et ils sont allés beaucoup, beaucoup plus loin, parce que quelques mois plus tard, ils ont annoncé la naissance de leur premier enfant.
Oui, Julian, petit garçon. Ouais.
Est-ce qu'il y avait aussi une bonne ambiance comme ça sur le tournage de la saison 2?
Oui, oui, alors, franchement, c'est une émission très feel-good, ce que je disais. Alors évidemment, il y a de la compétition, il y a des stratégies, il y a des engueulades de temps en temps, c'est aussi ce qui fait partie d'un jeu de télé-réalité, des éléments en tout cas, mais l'idée, c'est d'être pas dans le trash, mais plutôt d'être dans des valeurs plus positives et puis de se marrer surtout. Et ils s'éclatent à se challenger comme ça avec des épreuves qui sont très ludiques, un peu à la Koh-Lanta, effectivement. On est sur des grandes épreuves sur la plage et ça a quand même de la gueule.
Une question rapidement, vous avez fait des études de journalisme, Christophe Beaugrand, vous avez présenté des JT sur LCI de 2000 à 2007. Qu'est-ce qui vous plaît dans la télé-réalité au point d'en être le présentateur, alors que vous savez que ça peut-être vous griller un jour si vous voulez faire des émissions sérieuses, des débats sérieux?
Eh bien, j'ai la chance d'avoir toujours pu pratiquer le mélange des genres. C'est-à-dire, j'ai toujours fait des choses très différentes. Parallèlement à la bataille des couples, je suis tous les matins dans la matinale de LCI. J'ai présenté un talk show d'actu justement sur LCI, de débats politiques, où j'ai reçu Claude Guéant, par exemple, pendant l'été. Et en même temps, je fais la bataille des couples. Je pense qu'on n'est pas un et unique dans la vie. On peut avoir envie de faire plusieurs choses.
Je ne pensais pas à vous. Je pensais aux gens qui vous regardent et qui peuvent vous employer. Je pensais, imaginons que dans quelques années, vous ayez envie de travailler sur Public Sénat et que le type se dise quand même, je l'ai vu dans la bataille des couples, il n'a pas été très cool avec Yesta et Benoît.
Mais vous croyez, je pense vraiment que les gens sont plus ouverts que ce que pensent certains journalistes médias. Et moi, avec le public, les gens qui me regardent, je parle à des publics différents. Donc je pense que les gens qui me regardent sur LCI, parfois ne savent même pas que je fais la bataille des couples. En tout cas, ça ne les dérange pas parce que je pense que quand on sent dans la démarche de la personne qui est face à vous, de l'animateur ou du journaliste, une sincérité, eh bien ça peut passer. En tout cas pour moi ça passe, donc j'ai de la chance. Voilà.
Marquer la bataille des coupes sur Public Sénat, ça aurait de la gueule.
C'est pas faux. Christophe Beaugrand-Jerin est l'invité de Culture Média. On joue à l'Euro Million, pour moi c'est fait, et on parle de son actualité sur les chaînes du groupe TF1 dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Une actualité riche dans le groupe TF1. Philippe, pour notre invité, Christophe Beaugrand-Jerin.
Oui, il présente le tirage du loto, c'est ce soir, si vous voulez gagner. Je vous dis tout de suite, c'est le 12, le 14 et le 27. Non, je plaisante. Du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, c'est la bataille des coupes, c'est la deuxième saison. Et le matin, dans la matinale de LCI, on peut vous entendre également. Là, c'est très sérieux, c'est l'humeur de Beaugrand. C'est à quelle heure?
C'est à 8h10, juste après le journal de 8h. Je suis présent en plateau de 7h30 jusqu'à la fin de l'émission. Mais ma chronique est à 8h10. Et et c'est un billet d'humeur quotidien sur l'actualité en fonction de ce qui m'inspire. Et j'avoue que l'actualité est très inspirante en ce moment, donc je ne sèche pas souvent. Généralement, il y a toujours des thèmes qui donnent envie de dire des choses.
Ce matin, c'était quoi ?
Ce matin, on a parlé de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, qui lance une sorte d'offensive médiatique et qui est même allée jusqu'à être interviewée dans l'émission de Cyril Hanouna hier soir pour défendre sa maman et toutes les femmes qui se sentent victimes de misogynie.
Et mise en cause sur son physique par le président
Bolsonaro et les gouvernements brésiliens. Ouais.
C'est toujours politique ou
c'est
ça varie ?
C'est souvent politique. Après, ça peut être plus sociétal. Il m'est arrivé de parler de PMA, par exemple. Il m'est arrivé de parler là, récemment du show d'Édouard Philippe lorsqu'il avait pris la parole à Bordeaux à la convention de La République En Marche où il avait fait quelque sorte un petit sketch. Il avait d'ailleurs fait son Nicolas Canteloup, il avait imité Alain Juppé, etc. Donc j'essaye toujours de regarder les choses par le petit bout de la lorgnette pour essayer de démonter. C'est ce que j'essaye de faire de temps en temps, en tout cas les opérations de communication souvent qu'organisent les politiques, parce que c'est ce qui est le plus amusant et de plus parlant, je pense, pour les gens, puisqu'on parle beaucoup de politique sur LCI, évidemment.
Ou parfois c'est vous qui mettez la politique en scène, par exemple, vous avez raconté la lutte pour la mairie de Paris, mais avec votre manière à vous, Christophe Beaugrand.
Là, nous ne sommes plus dans la course à la mairie de Paris, mais carrément dans une émission de télé-réalité. Ça devrait vous rappeler des souvenirs. Secret mairie, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir gagner et ils sont prêts à tout pour ça. Coup bas, trahison, opportunisme. Qui allez-vous élire maire de Paris ? Qui sera le prochain locataire de la maison des secrets ? Pardon, de l'hôtel de ville ? Ce sont les anciens réflexes qui reviennent, je suis désolé.
Voilà.
Bon, cette campagne, c'est vrai, ressemble de plus en plus à une émission de télé-réalité.
Secret Mary, c'est évidemment une parodie de Secret Story que vous avez présentée.
C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Je maîtrisais vraiment les deux côtés, politique et le côté télé-réalité.
C'est pour la blague ou vous pensez vraiment qu'Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux, Cédric Villani, Rachida Dati sont des personnages de télé-réalité, des archétypes ?
Ah, je pense qu'aujourd'hui, la politique ressemble de plus en plus à une émission de télé-réalité, clairement. C'est-à-dire qu'on est dans des prises de position qui sont souvent tellement caricaturales, des opérations de communication qui sont tellement outrées, tellement grossières, et puis on a des coups de théâtre, comme dans des feuilletons, comme dans des émissions, avec l'affaire Villani, par exemple. On est vraiment proche de choses de l'ordre du feuilleton ou de la télé-réalité. Je ne dis pas que c'est forcément totalement négatif, mais il faut faire attention, en tout cas, à toutes ces opérations de communication. Alors, on va me reprocher de contribuer à ridiculiser la politique. Je pense que si je peux surtout contribuer à ce que les gens prennent davantage de recul par rapport à ce qui leur est dit et par rapport aux opérations de communication orchestrées par les politiques... voilà, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas.
Christophe Beaugrand, vous ne cachez pas votre homosexualité, même vous la revendiquez. TF1, c'est la chaîne du foot, de la Coupe du Monde.
Je la revendique, excusez-moi. J'en parle naturellement. Donc le mot revendication ne me correspond pas tout à fait, mais il n'y a pas de problème.
Vous avez absolument raison, et c'est d'ailleurs le débat. J'aimerais bien avoir votre avis sur la polémique autour des matchs de Ligue 1 arrêtés à cause des chants ou de banderoles homophobes. Et puis cette prise de position de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, qui veut bien qu'on stoppe les matchs pour des chants racistes, mais pas pour des chants homophobes. Qu'en pensez-vous ?
Je trouvais ça assez incompréhensible. On est dans quelque chose. La phrase de Noël Le Graët n'a aucun sens. Si on estime qu'il y a des chants...
Il a dit, j'arrêterai un match pour des cris racistes, j'arrêterai un match pour une bagarre, des incidents, s'il y a un danger dans les tribunes. Et il expliquait, selon lui, ensuite, que le racisme dans les stades et l'homophobie en tribune, ce n'est pas la même chose.
On ne peut pas créer de hiérarchie dans la victimisation, de hiérarchie victimaire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de dire certaines insultes parce que, bon, c'est moins grave, mais on n'aurait pas le droit de proférer des insultes racistes ou antisémites. Non, ça n'a aucun sens. Cette phrase-là n'avait aucun sens. Et d'ailleurs, ça lui a été dit. Il a même présenté ses excuses ensuite. Est-ce qu'elles étaient sincères ou pas ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer pour en parler. Je pense que c'est une problématique, ce qui se passe, la violence qu'il y a dans les stades, qui dépasse pour le coup l'homophobie. Et ce que je trouve hallucinant, c'est d'entendre des supporters dire « Mais c'est normal, c'est comme ça, ça fait partie du folklore. » Non, l'insulte ne peut pas faire partie du folklore. Et là, je parle même pas d'homophobie. C'est-à-dire que réussir à justifier le fait qu'il est normal, cohérent, logique, d'insulter son adversaire, quel exemple on montre à la jeunesse, quel exemple on montre aux nouvelles générations. Moi, je comprends les parents qui disent « Je veux pas venir avec mon fils dans le stade, si c'est pour entendre « Vas-y, pédé, enculé, sale nègre !» C'est horrible. Et qu'on ne me dise pas que ça fait partie du folklore, du football. J'ai trop de respect pour ce sport qu'on a la chance de diffuser sur TF1 et notamment les matchs des Bleus, les matchs féminins. On a bien vu que c'était un public différent et qu'on avait un public plus familial, qu'on avait des petites filles dans les rangs et dans les tribunes. Et on avait quand même des choses différentes. Donc oui, il faut faire passer des messages et je pense qu'il est important de faire passer ces messages-là. Non, l'insulte n'a pas sa place dans le sport.
Ni ailleurs. Merci beaucoup, Christophe Beaugrand. Je rappelle, ce soir, le tirage du loto, l'Euromillion, le 4, le 12, le 28, du lundi au vendredi, 18h50, la bataille des coupes sur TFX et tous les matins sur LCI, votre billet d'humeur. Mais là, vous êtes en week-end, on vous retrouvera lundi. Et ce soir, pour le loto.
Culture Média, ça continue, Philippe Vandel.
Oui, appel rappel des titres de 10h. On va parler culture. Nous sommes très heureux de recevoir le comédien Charles Berling. On va parler de la mythique pièce de Yasmina Reza, Art, l'histoire de trois vieux copains dont leur histoire d'amitié va vaciller après l'achat d'un tableau blanc sur fond blanc. Hélène Manarino va évidemment nous dresser le portrait inattendu de Charles Berling. Manarino qui est avec vous sur LCI le matin. Et puis, dans les indispensables, il sera question d'expo. Francis Bacon à Beaubourg, au musée du Luxembourg, de Randall Turner, chef-d'œuvre de la tête britaine, visible à Paris avec Louise Bernard. Et en musique, vous me demandez, il est comment le nouvel Arnaud, le nouveau disque d'Arnaud? Angèle Châtelier nous le dira.
Et c'est dans un instant sur Europe 1.